7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RJFM.
Il est 7h45 sur RJFM, notre invité du jour ce matin en ligne avec nous, c'est le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, bonjour.
Bonjour Damien, bonjour aux auditeurs.
Et merci d'être avec nous en distanciel, hein, parce que ce sont des nouvelles formules que l'on adopte ce matin. Évidemment, confinement, on évite les risques nous aussi dans ces locaux, bien qu'ils soient quand même adaptés. Frédéric Laporte, déjà un point sur la situation en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital en ce début de semaine. On a annoncé les chiffres tout au long de la semaine dernière du nombre de patients malades du Covid hospitalisés à Montluçon. Qu'en est-il? Quelle est la situation là en ce début de semaine?
Bah écoutez, la situation est mauvaise parce qu'elle continue à se détériorer, malheureusement. Les indicateurs ne sont pas du tout favorables. Et autant on était protégés, les mesures mises en place pour le premier confinement avaient été favorables et opérationnelles, autant là, l'ampleur de la deuxième vague au niveau national nous a largement touchés. Donc on a 59 personnes hospitalisées à la date d'hier soir. On a 11 personnes en résidence EHPAD. Je vous rappelle qu'il y avait eu 0 personne contaminée dans les EHPAD pour la première vague, hein. Donc, vous voyez que c'est important. 6 personnes en réa hier soir, ce qui est 2 fois supérieur au plus haut chiffre de la première vague. Et puis surtout 9 personnes décédées, ce qui est le triple de ce qu'on avait connu pour la première vague. Donc, ce sont de mauvais chiffres. Et ce qui prouve bien la difficulté et surtout l'ampleur de la pandémie et l'importance des mesures, notamment de confinement, et qu'il faut particulièrement respecter, bien sûr, mais surtout des mesures barrières, parce que je pense que la problématique vient de là. Pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ça n'a pas été suffisant, et aujourd'hui on en subit des conséquences. Sachant qu'en plus des décès, comme j'ai déjà expliqué, toutes les personnes qui passent en réa ont des séquelles plus ou moins importantes. Je ne parle pas de celles qui sont simplement malades de la COVID-19, hein, qui peuvent avoir des séquelles surtout dans les jours qui suivent. Mais celles qui passent en réa ont forcément des séquelles durables.
On avait vraiment le sentiment que l'Allier, Montluçon, avait été clairement préservé lors de la première vague. Plus du tout, là, pour cette deuxième, c'est le constat que vous faites également ce matin.
Disons que l'Allier avait été préservé, et notamment Montluçon, pour la première vague, parce que le confinement d'abord est venu, je pense, peut-être plus rapidement. Et puis la première vague était surtout dans des régions bien distinctes. Il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas touchés. Mais le fait est que les vacances estivales ont mélangé les populations de toutes les régions. Les Montluçonnais se sont déplacés dans un grand nombre de régions. Et finalement, on n'a pas eu cette segmentarisation par région. L'ensemble du territoire est touché. Et puis après, il y a des phénomènes professionnels, des phénomènes étudiants qui font que y a des gens qui se déplacent, qui reviennent. Et je pense que là, on subit aussi un certain nombre de comportements individuels ou en petits groupes qui n'ont pas été adaptés du tout. Il y avait une franche volonté de retrouver une vie normale. Et je pense que là, la communication, et peut-être la communication gouvernementale, n'est pas à la hauteur. Il n'y aura plus de vie normale pendant des mois et des années. Et ça, il faut bien l'intégrer. Mmh. Et il va falloir prendre des mesures et un changement profond de comportement de façon durable et peut-être même définitif. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas très bien compris, très très bien assimilé.
Alors évidemment, ce lundi, c'est la rentrée dans les établissements scolaires, malgré le confinement, donc les établissements scolaires qui restent ouverts. Quelles mesures ont été mises en œuvre dans les écoles de la ville de Montluçon ?
Les mesures, c'est celles du post-confinement, hein. C'est-à-dire mise à disposition de gel, de savon, il y a les thermomètres qui sont à disposition, on a aménagé les salles, enfin tout ça, on avait entre guillemets une expérience, parce que c'est le genre de choses dont on se passerait volontiers, après le déconfinement de mars, avril et mai dernier. Donc tout ça est remis en place. Après, il y a un nouveau protocole, notamment avec le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Donc là, c'est de la responsabilité individuelle des parents de fournir des masques à leurs enfants, de façon à ce que tout le monde soit protégé. De toute manière, on va être appelé à vivre avec des masques. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, qu'on éduque nos enfants à les porter dès le plus jeune âge.
Dans certaines communes, les municipalités ont décidé d'offrir des masques pour les 6-11 ans. C'est pas le choix qui a été fait de votre part?
Non, c'est pas le choix qui a été fait de notre part parce qu'on en trouve partout. Il y a toujours du plus plus. Nous, on a fait d'autres choix. Notamment, on ouvre un centre d'accueil pour les soignants qui souhaitent pas rentrer chez eux. On a mis en place des mesures différentes parce qu'aujourd'hui, les masques, ils sont à un prix extrêmement abordable dans les magasins. Donc, il faut aussi, un moment où on parle de faire fonctionner le commerce, je pense que tout le monde peut se fournir des masques un petit peu partout.
On rappelle, centre d'accueil périscolaire, cantine reste ouvert, bien évidemment.
Tout est ouvert. Tout est ouvert pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions, en respectant les gestes barrières. Gestes barrières ou de l'éducation nationale ou du ministère des Sports et de la Jeunesse, selon le type ou le lieu d'accueil.
Qu'en est-il des services au niveau de la cité administrative? Est-ce qu'il y a une adaptation? Est-ce que tout fonctionne normalement?
Tout fonctionne normalement, normalement, comme ça doit fonctionner aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ouvert, mais évidemment... On a mis en place des rendez-vous. Il y a un filtrage à l'entrée au niveau de la cité administrative. Donc ça dure depuis le mois de mai dernier. Mais sinon, les services sont ouverts. Tous les services à la population sont ouverts. D'abord parce que c'est indispensable pour que la commune fonctionne. Et puis la deuxième chose, c'est que le gouvernement a été très clair. Il faut que l'activité, et notamment l'activité des services des collectivités, continue de fonctionner. Donc nous avons respecté ces contraintes, ou en tout cas cet engagement, et l'ensemble des collaborateurs sont concernés. Ceux qui peuvent travailler par en nomadisme numérique pourront le faire. Il y a un certain nombre d'adaptations à faire, mais c'est pas la grande majorité des agents de la collectivité, puisque beaucoup sont sur le terrain, c'est-à-dire dans les rues, dans les gymnases, dans les écoles, et puis un certain nombre d'autres sont en confrontation ou au service direct de la population, à la cité ou au CCAS, par exemple. Tout ça fonctionne.
7h51 sur RJFM, on est avec le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, évidemment, en ce début de semaine, en cette période de rentrée également. Vous le disiez, la ville met en place un dispositif pour l'accueil des personnels soignants qui souhaitent ne pas rentrer à leur domicile, peut-être. Ça avait déjà été mis en place. J'imagine que, vu ce que vous nous avez donné comme chiffre tout à l'heure, c'est quelque chose qui était d'autant plus indispensable là pour cette deuxième vague.
Ah ben là, on a une soixantaine de soignants, d'après les chiffres que j'ai, entre 50 et 60, qui ont été touchés par la Covid. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes sont les victimes de cette pandémie. Donc les choses sont vraiment totalement différentes par rapport à la première pandémie. Alors là, on ne pourra pas ouvrir les internats des lycées, qui nous avaient été gracieusement mis à disposition par la région et puis les proviseurs. Mais on ouvre les réo, qui est un gîte, où là, ils ont l'autonomie totale pour pouvoir vivre. Et là, je pense que c'est important. Évidemment, le gîte sera totalement réservé aux soignants qui souhaiteront. Et ils peuvent appeler la cité administrative et on les guidera pour ceux qui le veulent. Là, il y a une quinzaine de places. Donc, je pense qu'on va déjà répondre à beaucoup de besoins si jamais c'est le cas. Et puis, s'il fallait aller plus loin, ben, on se retournerait peut-être vers le privé, des hôtels ou des choses comme ça.
Vous considérez que c'est du devoir de la collectivité finalement de mettre ça en place? La logique des réos est une propriété de la ville de Montluçon, hein, on le rappelle.
Bien sûr que c'est du devoir de notre commune que de soutenir les soignants. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se discutent actuellement. Est-ce qu'on va devoir ouvrir, pas ouvrir le commerce? Est-ce que le confinement c'est indispensable ou pas? Ces questions, on ne s'est pas posées à la première vague parce qu'on était tous dans l'émotion et puis on était tous derrière les soignants. On oublie aujourd'hui que les soignants sont encore plus en difficulté aujourd'hui que pendant la première vague et c'est extrêmement important de les soutenir parce que j'imagine qu'on va en parler, mais pour que l'économie fonctionne, il faut que les collaborateurs, les salariés et les entrepreneurs eux-mêmes soient en bonne santé et il faut que les clients soient en bonne santé et puis il faut que tout le monde ait confiance. Et ça passera si notre système de santé il n'est pas totalement submergé. C'est-à-dire, si on a la garantie que si, par malheur, on est atteint de la Covid-19 ou d'une autre pathologie, on puisse être soigné à peu près normalement. Et si ce n'est plus le cas, alors là, le système intégral va s'effondrer, y compris le système économique. Mmh. Donc, c'est extrêmement important de soutenir nos soignants, l'hôpital, et puis les privés, l'hôpital public, l'hôpital privé, les médecins de ville, les infirmiers, je ne vais pas tous les citer parce que je vais forcément en oublier, mais toute la branche médicale du début à la fin.
Juste justement, en matière d'économie, on y vient. Sophie, notamment, via nos réseaux sociaux, s'interroge ce matin. Elle parle des commerces. Vous n'avez pas souhaité, comme certains maires l'ont fait, signer ces arrêtés municipaux d'autorisation d'ouverture des commerces de proximité. Mais il y a donc cette pétition lancée, puis ce courrier fait au ministre de l'économie pour une égalité de traitement, finalement.
Exactement. Alors, j'ai pas souhaité faire un arrêté parce que c'est illégal. Ça mettait tout le monde en danger tout à fait inutilement, puisqu'un décret national est bien supérieur à un arrêté municipal. Donc, à part faire parler de moi sur TF1, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Ou sur RGFM.
Ou sur RGFM, mais vous en parlez malgré tout, voyez-vous.
Bien sûr.
J'ai préféré plutôt envoyer un courrier au Premier ministre et au ministre de l'économie, leur expliquant qu'il y avait une difficulté majeure. De l'électroménager ou des habits, on ne peut pas les acheter sur le boulevard de Courtais. Par contre, on peut aller dans n'importe quel autre magasin. Par contre, les articles de sport, on ne peut pas aller dans un magasin spécialisé articles de sport, mais on peut aller dans d'autres magasins ou simplement il y a de la nourriture qui est en vente. Moi, je trouve ça un peu illogique. C'est pas une attaque contre la grande distribution, hein, d'ailleurs, hein, ou la grande distribution généraliste, parce que la grande distribution spécialisée était touchée, hein, par l'interdiction d'ouvrir. C'est pas du tout une attaque. Moi, ce que je pense, qu'il faut qu'il y ait une vraie égalité de traitement. Et on parle aujourd'hui d'Amazon. Eh bien, Amazon, on a les moyens de contrôler ce qui se vend. Agissons. C'est tout, agissons. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin, effectivement. Il n'y a pas de raison qu'on aille acheter des jouets sur les sites type Amazon. Achetons des jouets dans nos magasins, oui. Soyons solidaires. On parle de solidarité avec les soignants. Soyons solidaires aussi avec nos commerçants. Je comprends bien que ça puisse choquer certaines personnes. Mais encore une fois, si l'ensemble de la population n'est pas en bonne santé et confiante, le commerce ne fonctionnera pas.
Ce que vous aimeriez par rapport au commerce, justement, c'est qu'ils aient la possibilité éventuellement d'ouvrir, comme certains le réclament.
Aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit possible parce que, encore une fois, la pandémie est partout sur notre territoire. Et il faut absolument stopper, non pas la pandémie, parce qu'on ne va pas l'arrêter, elle va être présente pendant de nombreux mois et de nombreuses années, mais stopper son évolution extrêmement rapide qui se produit actuellement. Bien plus rapide que ce qui était imaginé même par les scientifiques. Parce que je lis beaucoup et je lis pas que la presse, je lis aussi des rapports de scientifiques qui sont publics. Donc on est allé bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Donc aujourd'hui, il faut casser cette fulgurante augmentation. Une fois qu'on l'aura cassé, bah faudra remettre en place des ouvertures, effectivement. Et ça, j'ai du mal à imaginer, contrairement à ce que certains peuvent promettre, que ça se fasse dans 15 jours. Ça me paraît beaucoup trop court, mais peut-être dans 3 ou 4 semaines. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas correctement aujourd'hui, s'il n'y a pas un vrai changement de comportement après, eh bien, on recommencera à être confiné au mois de février ou au mois de mars. Hein. C'est évident. Puisqu'il s'agit aussi d'un comportement global. Et ça, chacun doit en prendre conscience.
Le message est bien passé en tout cas ce matin. Merci Frédéric Laporte, maire de Montluçon, d'avoir été avec nous.
Merci Damien.
Bonne journée à vous et merci.
Et ayez confiance, on va y arriver.
Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. RJFM, il est 7h, passé de presque 58 minutes, journal complet d'ici une petite demi-heure et le flash dans 5 minutes. À tout de suite.
7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.